en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, je vous remercie pour cette introduction qui est tout à fait conforme à ce que je fais de l'idée de ce que j'ai essayé de faire pendant ma carrière. Donc je suis très impressionnée par tous les éléments que vous avez pu rassembler. Alors sur le sujet, vous avez peut-être eu la curiosité de regarder la définition des services à la personne et de vérifier qu'il s'agit en fait de services destinés à améliorer le mieux-être de la population à son domicile. Ce sujet vous a peut-être paru insolite dans le cadre prestigieux de l'Académie des sciences morales et politiques et je remercie Michel Pébreau de m'avoir invité pour le traiter. Je suis en effet convaincue que ce sujet est majeur aujourd'hui et je vais m'efforcer de vous faire partager ma conviction. Alors que j'étais membre du Conseil d'analyse économique, comme vous l'avez dit, économiste rompu au sujet sérieux, emploi, croissance, déficit extérieur, etc., Jean-Pierre Raffarin a été attiré, effectivement, quand il était Premier ministre, par un rapport que j'avais fait, comme vous l'avez dit, au Conseil d'analyse économique, pour lancer un plan de développement des services à la personne. Effectivement, j'ai eu cette grande et rare chance pour un économiste d'être intégré dans un cabinet ministériel pour y développer un plan qu'on a proposé. Je commencerai ma présentation en rappelant la très longue et foisonnante histoire des services à la personne. J'y montrerai comment, au fil du temps, des acteurs différents s'y sont retrouvés et comment s'y sont accumulés des aides nombreuses et diverses qui en freinent aujourd'hui le développement. Si toutes ces activités exercées au domicile ont été regroupées dans le même plan de développement des services à la personne, c'est parce que le gouvernement, comme vous l'avez dit, a reconnu alors que se généralisait l'automatisation de la production, qu'il représentait un des seuls gisements d'emplois de qualification intermédiaire non délocalisables. L'idée que je défendais alors était que ces emplois ne seraient plus, comme par le passé, des petits boulots, que le numérique allait en effet permettre de les organiser efficacement et que, à mesure que l'enrichissement des technologies numériques progresserait, ils deviendraient de véritables emplois productifs. Compte tenu de l'ampleur des besoins, j'avais fait le calcul que le nombre d'emplois qui pouvaient être créés était de plusieurs millions et permettait donc d'envisager le retour à un véritable plein emploi. Nous verrons que cette perspective est plus que jamais d'actualité. On comprend que le sujet mérite qu'on s'y intéresse. Sous leur forme la plus ancienne, les services à la personne sont les services de domesticité. Les personnes qui les rendaient vivaient chez les personnes qui les employaient, pour leur apporter sur leur lieu de vie, au moment et là où ils en avaient besoin, des savoir-faire banals pour améliorer leur mieux-être. Faire la cuisine, laver le linge, etc. Avant la révolution industrielle, on estime que ces services représentaient jusqu'à 20% de la population. Mais comme ces travaux domestiques ne faisaient appel qu'à des savoir-faire qui ne bénéficiaient d'aucune innovation technologique, ils se perpétuaient de siècle en siècle, sans permettre ni croissance, ni réduction des inégalités. Avec la révolution technologique de la mécanisation, des populations domestiques, des campagnes comme des villes, ont pu trouver du travail dans l'industrie. Le nombre des emplois de domesticité a ainsi été réduit très rapidement. Et comme les travailleurs éliminés de l'agriculture et de l'artisanat, ces travailleurs domestiques ont pu accéder à des emplois productifs. On a qualifié de secteur de déversement le nouveau secteur industriel qui les accueillait. Les ouvriers ont été en mesure de récupérer sous forme de gains de pouvoir d'achat une partie des gains de productivité dégagés grâce aux innovations technologiques incessantes sur les machines sur lesquelles ils travaillaient. Monsieur Ford, qui n'était pourtant pas un humaniste, a en effet compris qu'il fallait qu'il paye ses ouvriers davantage pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils produisaient. La classe moyenne a pu s'équiper avec toutes sortes de biens. Grâce à la création de ces très nombreux emplois productifs, on a pu connaître la longue période de croissance forte et partagée avec une spectaculaire réduction des inégalités. Bien que les technologies de la mécanisation n'aient pas été à même d'organiser les services de façon productive, un certain nombre de services se sont développés, soit des services après-vente, soit grâce à l'État-providence des services publics et sociaux, accessibles à tous les citoyens. Tous ces services nécessitaient que le citoyen se déplace dans des lieux dédiés, que ce soit l'hôpital, la gare, etc., l'école, etc. Seul un tout petit nombre de services aux particuliers employeurs et aux personnes fragiles étaient rendus au domicile. Le rôle de l'État y a été majeur dans ces deux cas. D'abord, l'État est intervenu pour transformer en emplois salariés les emplois de domesticité dont la sociologie originale était fondée sur la réciprocité entre le dévouement des serviteurs et le devoir de sauvegarde, surtout morale, des patrons. Après la guerre, obligation a été faite aux particuliers employeurs de déclarer leurs salariés. En 1991, pour les y inciter, une réduction de 50% de l'impôt sur le revenu sur les sommes dépensées leur a été octroyée dans la limite d'un plafond. Cette aide permet à un particulier employeur de déclarer son salarié sans payer davantage que s'il ne le déclarait pas, puisque, en gros, le coût des cotisations sur les salaires correspond à peu près à la réduction d'impôt de 50% sur les sommes dépensées. Cet abattement fiscal a eu un grand succès. Il n'a jamais été remis en cause depuis, même si le plafond a fait l'objet d'un certain nombre de changements. La France est ainsi devenue le pays qui a le plus grand nombre de particuliers employeurs par rapport à sa population, avec 3,6 millions de particuliers employeurs employant 1,6 million de salariés. Le deuxième type de service qui était rendu au domicile et sur lequel l'État est intervenu sont les services concernant les services sociaux rendus aux personnes fragiles, qu'il s'agisse des jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées. Les services ont été organisés en complément des services dans des lieux dédiés, comme les maisons de retraite, les crèches, les institutions pour les personnes handicapées, parce qu'ils sont moins coûteux au domicile et aussi parce que les publics préfèrent les avoir à leur domicile. L'État a donc créé des structures ad hoc sans but lucratif de l'économie solidaire, de l'économie sociale et solidaire, les associations, ou des services publics des collectivités locales, comme les centres d'action sociale, qui ont rendu ces services. Les pouvoirs publics versaient des allocations à des ayants droit pour qu'ils puissent accéder quasiment gratuitement à ces services, mais au lieu de verser aux ayants droit des allocations correspondant aux charges de droit commun, des structures prestataires, les pouvoirs publics ont préféré accorder diverses dérogations, comme des taxes sur les salaires à la place de la taxe sur la valeur ajoutée, et accorder des réductions de cotisations sociales. Et ils ont comme ça pu verser des allocations plus faibles aux structures prestataires. Sorte de circuit court, un peu comme l'aide à la pierre pour le logement, qui semblait judicieux à l'époque, mais qui va s'avérer complexe à gérer aujourd'hui. Dans ce contexte, au début des années 90, on a vu arriver sur le marché des entreprises privées qui emploient des salariés et les forment pour rendre toutes sortes de services à la personne au domicile, preuve qu'il devenait possible de rentabiliser ces activités pour le grand public. La généralisation du travail des femmes et le vieillissement de la population faisaient alors croître le besoin de prestations de qualité d'une classe moyenne dont le niveau de vie montait et qui n'avait pas l'habitude d'employer de personnel de maison. C'était le moment aussi où les technologies numériques automatisaient l'industrie et les services et commençaient à détruire systématiquement les emplois répétitifs et standardisés. Les services à la personne qui échappaient à ce caractère répétitif constituaient de précieux gisements d'emploi. C'est là que j'avais fait ce calcul que si chaque Français consommait 2 heures de ses services à domicile par semaine, ceci permettait de créer 4 millions d'emplois équivalents temps plein. Donc j'avoue que vous pouvez le faire, le calcul, mais ce calcul m'avait à l'époque étonnée, simplement parce qu'effectivement ce sont des activités extrêmement riches en emplois. On n'a plus l'habitude de telles richesses en emplois d'activités. Les technologies numériques commençaient déjà à l'époque à fournir les premiers outils permettant d'organiser efficacement le travail au domicile, comme les technologies de la mécanisation avaient permis jadis de le faire dans les usines. On pouvait par exemple faire parvenir les plannings de façon numérique aux prestataires qui n'avaient plus à passer pour chercher leur travail du lendemain dans l'agence locale. On pouvait aussi optimiser les trajets. On pouvait contrôler l'heure d'arrivée et de départ des prestataires et donc l'effectivité des prestations, comme on pouvait le faire à l'usine, hein, avec le pointage dans les usines. Donc il devenait possible de pointer au domicile. Le plan lancé en 2004 par Jean-Louis Borloo a mis en place une politique de création d'emplois qui devait lever les blocages qui freinaient le développement des services à la personne. Il a mis en place un dispositif global permettant d'élargir le cadre étroit des services à la personne qui existait, celui des particuliers employeurs traditionnellement utilisés par les ménages aisés, et celui des services aux personnes fragiles rendus par des associations. Un objectif de doublement du rythme de croissance des emplois a été fixé, correspondant à la création de 500 000 emplois dans les trois années suivantes. Jean-Louis Borloo avait été prudent. D'ailleurs, il avait raison, parce que je ne disais pas 4 millions d'emplois tout de suite. Mais enfin, il avait quand même déjà misé sur un chiffre important qui avait frappé les esprits, qui était de 500 000 emplois. Les associations ont alors renoncé à se spécialiser sur le segment des services aux personnes fragiles et sur les services sociaux. Une telle décision donnait accès aux entreprises privées au marché très important de ces publics fragiles. Je rappelle que le montant des seules allocations pour ces publics, financés par les pouvoirs publics, atteint aujourd'hui 5 milliards d'euros, dont la moitié pour les personnes âgées. Par cette décision, les associations, de leur côté, pouvaient élargir le périmètre de leurs activités sur les nouveaux marchés de services pour tout public. Il a donc fallu égaliser les conditions de concurrence de tous les acteurs présents sur le marché, les anciens, les associations et particuliers employeurs, et les nouveaux, les entreprises privées. Disons, pour simplifier, parce que franchement, c'est compliqué, que le plan des services à la personne a étendu à tous les acteurs les aides qui étaient réservées à certains. Ainsi, du côté de l'offre, une réduction de taux de TVA a été accordée aux entreprises privées pour compenser l'avantage qu'avaient les associations soumises à une taxe sur les salaires moins élevée. Les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale qui étaient accordées aux associations ont été étendues aux entreprises privées et aux particuliers employeurs. Ces aides fiscalo-sociales représentent aujourd'hui des montants très importants, de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. De même, du côté de la demande, la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux particuliers employeurs a été élargie aux clients des associations et des entreprises privées. Au départ, circonscrite par le chèque emploi service universel, le CESU, à un public restreint, cette solvabilisation de la demande a été progressivement élargie à une grande partie de la population, à la fois sous forme d'impôt, de réduction d'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui coûte 1,5 milliard d'euros, et plus récemment sous forme de crédit d'impôt pour les ménages qui ne paient pas d'impôt. Et là, ça coûte 2 milliards d'euros. Un décret a défini le périmètre des 21 activités de service à la personne qui donnaient droit à ces aides. Que ces services soient rendus dans le cadre d'associations, d'entreprises ou de particuliers employeurs. Il s'agit d'activités, comme vous le savez, comme le ménage, le repassage, petit bricolage, petits travaux informatiques, petit jardinage, garde d'enfants, soutien scolaire, etc. Pour avoir droit à ces aides, les associations et les entreprises devaient exercer ces activités de façon exclusive, c'est-à-dire seulement celles-là, et obtenir un agrément en faisant une déclaration à l'État. Pour les services aux personnes fragiles, il fallait un agrément particulier qu'on appelait l'agrément qualité. Et certes, les associations pouvaient continuer à opter pour le système ancien dit de l'autorisation qui passait par les conseils généraux et qui leur accordait, soyons clairs, la préférence. Mais les entreprises qui obtenaient l'agrément qualité auprès de l'État avaient légalement le même accès au public fragile que les associations. Le plan Borloo à des services à la personne a donné une force visibilité et une unité à ce qu'on a appelé le secteur des services à la personne, par-delà la diversité des activités et des modes d'exercice qu'il recouvre. Il a en fait ainsi élargi au domicile le champ des activités productives qui n'existaient alors que dans les usines. Dans les premières années après le plan, le décollage des entreprises privées a été spectaculaire. On est passé de 500 à 15 000. Au total, malgré le caractère hétérogène du secteur des services à la personne qui rend impossible la constitution d'une base statistique complète et détaillée, les différents chiffrages montrent que plusieurs centaines de milliers d'emplois ont été créés dans les années qui ont suivi le plan. Les 21 activités représentent aujourd'hui environ 5% de l'emploi salarié. Mais ces résultats se sont infléchis par la suite. En effet, progressivement, avec la fin du plan des services à la personne, puis avec la suppression de l'Agence nationale des services à la personne, on a subrepticement laissé sans pilotage la politique nationale de développement d'une large palette de services à la personne, élargissant ceux des services aux personnes fragiles. Plus rien n'était prévu pour favoriser les échanges et la recherche de compromis entre les différents acteurs, mais aussi entre les niveaux national et local. On a renoué avec une politique favorisant les associations et les publics fragiles. Les aides fiscales et sociales ont été pour l'essentiel concentrées sur ces publics. En 2016, il est même devenu obligatoire pour les entreprises qui proposent des services aux publics fragiles d'obtenir la fameuse autorisation des conseils départementaux à la place de l'agrément donné par l'État, ce qui, de fait, refermait le marché aux entreprises privées. Ainsi, aujourd'hui, la moitié des heures prestées le sont encore pour les publics fragiles et les associations partagent pratiquement ce marché avec le particulier employeur. Les entreprises privées n'y sont encore que pour 6% des heures. Même auprès du grand public, la France est de loin le pays où les citoyens font le moins appel à des entreprises privées, 15%, et le plus aux particuliers employeurs qui occupent près de 60% des heures prestées. C'est dans ce contexte en demi-teinte que l'explosion des objets connectés allait changer l'avenir des services à la personne en leur offrant la possibilité de s'intégrer dans la production de nouveaux produits de consommation de masse. J'insiste là parce que c'est la rupture, si vous voulez. Les objets connectés fournissent en effet des informations personnalisées en continu et à distance, sur les consommateurs et sur leur environnement. Il est donc possible d'utiliser ces informations captées pour connaître finement les besoins du consommateur et mettre à sa disposition tout ce qui peut le satisfaire là où il est. Ainsi, pour satisfaire nos besoins, au lieu d'acheter des biens et de devoir nous déplacer dans des lieux dédiés pour bénéficier de services, nous pourrons acheter de plus en plus de nouveaux produits qui intégreront la mise à disposition à notre domicile d'objets connectés par des entreprises qui en garderont la propriété. Ces entreprises nous enverront des personnes qui entretiendront ces objets et nous apporteront leur aide. Les services à la personne se trouveront ainsi comme encapsulés dans ces nouveaux produits que nous proposons d'appeler des solutions. Il s'agit d'une véritable révolution de satisfaire de tous nos besoins. Dans le temps qui nous est imparti pour comprendre ce que sont ces solutions, prenons le cas dont vous entendez sans doute beaucoup parler, qui est celui de la silver economy. La silver economy recouvre toutes les solutions permettant aux personnes âgées de vivre plus longtemps à leur domicile en bonne santé grâce à des objets connectés. Alors, par exemple, chemin lumineux au sol qui s'allume automatiquement lors de déplacements au domicile la nuit, solutions de télésurveillance qui utilisent des capteurs installés au domicile pour détecter des chutes et déclencher la venue rapide de quelqu'un pour porter secours à la personne qui est tombée. Solutions de télémédecine à partir de capteurs mesurant en continu et à distance divers paramètres de santé permettant de suivre l'évolution de maladies chroniques sans avoir besoin de se rendre systématiquement à l'hôpital, etc. Nous aurions pu prendre l'exemple de solutions de mobilité, comme l'autopartage qui met à disposition des voitures dans les rues de nos villes, ou des solutions qui permettraient à des personnes en pleine force de l'âge de vivre tout autrement à leur domicile. Je pourrais répondre à des questions si vous le souhaitez, toujours grâce à ces objets connectés. Les solutions vont en effet révolutionner la façon de vivre de toutes les catégories de la population en leur apportant tout ce dont elles ont besoin sur leur lieu de vie. Mais revenons à la silver economy. Aujourd'hui, tout le monde s'étonne que malgré tous ces objets connectés, je ne sais pas, vous n'êtes sans doute jamais allé dans ces lieux où on expose tous ces objets connectés, c'est tout à fait spectaculaire. Donc, malgré la multiplication depuis déjà des années de toutes sortes d'objets connectés tels que ceux qui viennent d'être évoqués, la silver economy ne se développe pas. La raison en est simple. La silver economy ne se réduit pas à la production d'objets connectés. Bien sûr, l'industrie qui les produit en est l'élément central, l'industrie 4.0, comme on l'appelle. Mais pour que le consommateur puisse acheter ces solutions, il faut structurer de nouvelles chaînes de production en aval des objets connectés. Là encore, pour le comprendre, prenons l'exemple de la solution de téléassistance. Pour que la personne âgée puisse l'utiliser, il faut organiser l'interaction de 3 entreprises de services à la personne, 3, qui n'ont pas du tout les mêmes savoir-faire. Celle qui pose et maintient en état de bon fonctionnement les capteurs au domicile du client, celle qui reçoit l'ordre d'analyser à distance les données captées chez ce nouveau client, celle enfin qui décèle une chute et envoie un professionnel à la personne qui est tombée. Il faut donc que l'entreprise à laquelle un capteur a signalé une chute puisse envoyer automatiquement un message à celle qui doit aller porter secours. Il faut que tout cela puisse se faire sans délai et de façon sécurisée, que les personnes soient disponibles et proches des lieux d'intervention, etc., etc. Il faut par ailleurs que les personnes qui interviennent au domicile soient formées pour réagir avec le client en temps réel aux nouvelles informations données par les objets connectés et apporter leur savoir-faire de façon empathique et humaine. Il s'agit d'un tout nouveau type de travail, non pas comme dans l'industrie face à une machine, ni comme dans les services face à des gens, mais au domicile face à la fois à des machines numériques et à des gens. Ce travail, en quelque sorte à 3, permet aux personnes qui rendent ces services d'être intégrées dans de nouvelles chaînes de production productive, comme les ouvriers l'étaient dans les chaînes de production de la mécanisation. Avec le développement des marchés de solutions, plusieurs millions d'emplois pourront être créés, comme notre calcul l'a montré précédemment. Ces salariés seront, comme dans l'industrie, en position, dans le rapport de force, de négocier une part des gains de productivité issus des très nombreuses innovations qui irrigueront les chaînes de production numérique et les logiciels qui produisent les solutions. Ils pourront ainsi acheter les solutions, comme ils ont pu acheter les biens. Une croissance partagée pourra naître et avec elle, les inégalités à nouveau se réduire. Mais, comme dans les usines de la mécanisation, pour que la production soit rentable et puisse se développer en consommation de masse, il ne faut pas que chaque producteur invente tous les maillons de la chaîne de production qu'il utilise. Il faut structurer ces chaînes sur des infrastructures partagées par tous les producteurs et même tous les consommateurs, qu'on pense au réseau d'électricité ou au réseau de chemin de fer. La nouvelle infrastructure de base des solutions, ce sont des plateformes sur Internet que l'on appelle BIFAS, qui organisent justement toutes ces interactions en temps réel entre les entreprises qui contribuent aux solutions et permettent aux consommateurs d'y accéder facilement. Malheureusement, toutes sortes d'entreprises de services font aujourd'hui des expérimentations en silo pour produire les premières solutions de la silver economy. Chacune faisant tout, en particulier sa plateforme, comme lorsque M. Ford produisait ses machines, son électricité, son chemin de fer. La Poste fait sa silver economy, chaque filiale d'assistance des assurances et des mutuelles font la sienne. L'État et les collectivités locales financent depuis des années toutes ces expérimentations locales indépendantes, dont aucune ne trouve la taille critique. Force est de constater que les inerties sont telles et les intérêts particuliers sont si puissants qu'il faudra beaucoup de temps pour que suffisamment d'entreprises de services qui n'ont jamais travaillé ensemble se rassemblent pour structurer la production des solutions autour de plateformes partagées, qui seules donneront au marché la profondeur nécessaire à leur développement en consommation de masse. on est en train de reproduire ce qui s'est passé jadis dans l'industrie. Que l'on songe par exemple aux chemins de fer qui ont commencé par être développés sans coordination, avec des largeurs de voies différentes, avant d'arriver à un seul réseau partagé par tous. On entre dans un long processus de destruction créatrice, pendant lequel le développement des solutions utilisant des salariés sera désordonné et peu rentable avant que le marché ne puisse canaliser et susciter une demande de masse. Bien sûr, on pourrait attendre que les marchés fassent leur œuvre, comme on l'a fait jadis pour mettre en place les chaînes de production de l'industrie. Seulement voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps parce que de nouvelles entreprises numériques, partant de rien, ont compris qu'il était possible de satisfaire tout autrement les besoins avec des solutions. Mais elles le font en utilisant un paradigme totalement différent de celui utilisé par les entreprises de service à la personne. Elles se spécialisent dans la collecte et l'exploitation de données et délèguent à des travailleurs indépendants ou à des citoyens ordinaires les mises à disposition de personnes, alors que les entreprises de service à la personne les prennent en charge et en portent les coûts. Elles ne portent donc que des coûts fixes de conception des logiciels qui traitent l'information, de sorte le coût marginal de mise à disposition de l'application devient nul dès lors que suffisamment d'internautes s'y connectent. Ce mode de satisfaction des besoins, du coût marginal nul, comme on l'appelle aujourd'hui, est tellement plus simple à organiser que de gérer des salariés et des mal la matière. On le comprend. Il ne s'agit pas ici de critiquer les GAFA qui conduisent cette révolution. Nous voulons simplement, à ce stade, montrer que ce système est en train de casser les entreprises de service à la personne au moment où il leur aurait fallu le temps de s'organiser pour produire les solutions intégrant des salariés embauchés et formés. Par exemple, la personne qui trouve une femme de ménage grâce à une application mobile comme Cleaner, plutôt que de s'adresser à une entreprise de service à la personne comme O2, paye sa prestation moins chère puisque la rémunération versée à la femme de ménage n'est pas soumise aux mêmes obligations légales que celles qui pèsent sur les salariés d'O2. La femme de ménage de Cleaner n'a d'ailleurs aucun pouvoir sur la rémunération qui lui est versée puisque cette entreprise ubérisée lui restitue la part qu'elle souhaite de la somme qui lui est directement versée par le client. Comme les clients de Cleaner ont le droit aux mêmes réductions d'impôts que ceux d'O2, il est clair que la distorsion de concurrence va progressivement faire basculer les services à la personne traditionnelle vers ces services ubérisés moins chers. Ce qui est vrai pour le ménage l'est aussi pour tous les autres services à la personne. Les emplois qui se multiplieront alors ne seront plus ceux créés par les entreprises de services à la personne, mais ceux de petits boulots, de travailleurs indépendants mal formés et mal rémunérés. La généralisation de ce phénomène fera que la croissance sera faible, non pas par manque d'innovation technologique, mais parce qu'elle sera mal répartie, très forte pour ceux qui créent et distribuent les applications, très faible pour la grande partie des autres. Il y a là un risque majeur pour nos démocraties qui auront du mal à supporter le retour de si fortes inégalités. C'est malheureusement ce que l'on observe aux États-Unis, où l'ubérisation fait son œuvre depuis plus longtemps qu'en Europe. Bien sûr, les technologies numériques permettront aux machines de faire de plus en plus de tâches jusqu'alors réalisées par l'homme, en particulier celles des services à la personne, ubérisées ou pas. Les GAFA joueront un rôle majeur dans cette évolution. Ils disposent à la fois des myriades de données nécessaires pour éduquer ces machines, en particulier par le biais de l'intelligence artificielle. Ils ont aussi les moyens de financer les meilleurs talents du monde qui utiliseront les dernières technologies pour éliminer systématiquement l'homme qui n'entre pas dans le paradigme du coût marginal nul. Le fait que les GAFA se tournent vers le développement de la voiture autonome après avoir diffusé toutes sortes d'applications de taxi comme Uber en est un très bon exemple. Loin de nous décourager, une telle perspective doit nous inciter à développer le plus rapidement possible les solutions qui valorisent la présence humaine et sont aujourd'hui préférées par les consommateurs dans un certain nombre de situations, en tout cas. Cela permettra non seulement de retrouver le plein emploi, mais aussi de donner le choix aux consommateurs entre ces solutions pensées et organisées pour donner sa place à l'homme et les services aujourd'hui ubérisés et demain robotisés proposés par les GAFA qui n'en auront pas le souci. Par ce choix, les consommateurs décideront de la vitesse à laquelle ils souhaiteront aller vers le remplacement de l'homme par la machine. Que faire de mieux dans une démocratie ? Alors oui, mesdames et messieurs les académiciens, l'essor des services à la personne peut être une solution pour résoudre le chômage structurel, à condition de prendre les mesures nécessaires. Il faudrait que le gouvernement lance un plan à la suite de celui de 2002 pour catalyser les coordinations d'acteurs, accélérant le développement des solutions qui créeraient beaucoup d'emplois productifs. Il faudrait faire de ce plan un projet européen pour doter l'Europe d'une plateforme collectant la myriade des données personnelles des citoyens européens, comme le font les GAFA américains. L'Europe, continent des Lumières, pourrait ainsi faire entendre sa voix aux côtés de celle des GAFA pour construire une société où l'homme et la machine de demain conjugueraient harmonieusement leurs talents. Je vous remercie de votre attention.